Iran-Venezuela, pionnier d'un ordre anti-empire. Le président Maduro est à Téhéran pour signer un accord de coopération de 20 ans avec l'Iran. Pour la deuxième fois cette semaine, les défenses aériennes syriennes ont intercepté tôt vendredi 10 juin les missiles lancés par l'armée israélienne sur des cibles au sud de la capitale Damas, détruisant la plupart d'entre eux. Et la Tunisie, l'Algérie et la Libye se sont mis d'accord sur plusieurs dossiers d'intérêt commun, dont la lutte contre le terrorisme dans la région, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la cybercriminalité, ainsi que la question aux flux migratoires, la sécurité sanitaire, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé ce vendredi 10 juin à Téhéran à la tête d'une délégation politico-économique de Oran pour une visite officielle de 2 jours, à l'invitation de son homologue iranien Ebrahim Raisi. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision hispanophone iranienne Hispan TV, le président Nicolas Maduro a déclaré que le Venezuela et l'Iran ont pour objectif commun de combattre le colonialisme, l'impérialisme et le racisme. Les liens de fraternité et de solidarité entre l'Iran et le Venezuela sont forts parce que nous nous considérons comme des compagnons de lutte, a-t-il déclaré sur Hispan TV. Nicolas Maduro a salué la décision courageuse de l'Iran d'envoyer des pétroliers au Venezuela lorsqu'il avait besoin d'énergie. L'arrivée du navire iranien au Venezuela a été extraordinaire. À l'époque, nous avions fermé 4 de nos raffineries en raison du terrorisme économique imposé par les États-Unis. Et nous n'avions donc plus de carburant. Le président vénézuélien a également déclaré qu'une nouvelle ère sera créée dans les relations entre l'Iran et le Venezuela. Samedi, nous signerons un document de coopération de 20 ans, ce qui constituera un nouveau chapitre dans les relations entre les peuples d'Iran et d'Amérique du Sud. Dans une autre partie de son discours, le président Maduro a souligné la nécessité pour les nations iraniennes et vénézuéliennes de se tenir informées de la guerre des sanctions et de trouver des moyens de les contrer avec vigueur. S'attardant sur la cause palestinienne, le président vénézuélien a décrit la Palestine comme la cause la plus sacrée de l'humanité, critiquant la communauté internationale pour son silence sur les atrocités du régime sioniste contre le peuple palestinien, soulignant que le Venezuela et l'Iran continueraient à soutenir la lutte palestinienne contre l'occupation israélienne. Un haut responsable nucléaire iranien a déclaré que le pays a commencé à injecter de l'uranium gazeux dans des centrifugeuses avancées et a déconnecté certaines caméras de l'AIOA qui surveillent ces sites sortant de l'accord de garantie. Nous avons mis fin aux opérations d'un certain nombre de caméras de l'agence opérant en marge des mesures de sauvegarde. Et vendredi 10 juin, nous mettrons fin aux opérations des autres, qui sont au nombre de 17 à 18 au total, a déclaré jeudi soir Mohammad Estami, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA. Ces mesures ont été prises après que le Conseil des gouverneurs de l'Agence nucléaire des Nations Unies a adopté mercredi 8 juin une résolution politique accusant l'Iran de ne pas coopérer avec l'Agence. La réponse de l'Iran a été rapide et ferme, déclarant qu'il avait pris de contre-mesures pratiques, notamment l'installation de centrifugeuses avancées et la désactivation des appareils fonctionnant en dehors de l'accord de garantie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a fermement condamné la nouvelle agression du régime sioniste contre la Syrie après l'attaque de vendredi contre l'aéroport de Damas, réaffirmant son soutien indéfectible à la Syrie. La République islamique d'Iran a toujours soutenu le gouvernement et le peuple syrien et continuera de le faire à l'avenir, a déclaré le haut diplomate iranien lors d'une conversation téléphonique avec son homologue syrien Faisal Mirdad vendredi, quelques heures après une frappe aérienne israélienne visant les environs de l'aéroport international de Damas, dans la capitale syrienne. Il a déclaré que les attaques incessantes du régime sioniste contre les infrastructures syriennes ne constituaient pas seulement une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, mais aussi une violation de toutes les lois internationales et des normes et principes humanitaires. Le ministre iranien a ainsi dénoncé le silence de la communauté internationale et des organisations régionales face à l'agression israélienne, qu'il a qualifiée de répréhensible. Le ministre syrien des Affaires étrangères a pour sa part salué le soutien de la République islamique d'Iran et a déclaré que la nation syrienne maintiendrait sa résistance contre l'occupation israélienne. Se référant à la frappe aérienne du vendredi, Faisal Mirdad a déclaré que le régime sioniste avait recours à de telles attaques désespérées pour perturber le calme et la stabilité dans la région afin de détourner l'attention de sa crise intérieure. Il a en outre déclaré que les attaques visaient à renforcer les restes des groupes terroristes tels que Daesh et le front al-Nusra en Syrie, ajoutant que l'agression israélienne ne mènerait nulle part. De telles incursions, a conclu le responsable syrien, ne feraient que renforcer la détermination du gouvernement et du peuple syrien à affronter l'occupation et le terrorisme israélien. Plus tôt vendredi, pour la deuxième fois cette semaine, les défenses aériennes syriennes ont intercepté des missiles lancés par l'armée israélienne sur des cibles au sud de la capitale Damas, abattant la plupart d'entre eux. Sana, l'agence de presse officielle syrienne, citant une source militaire, a déclaré que des avions de combat israéliens avaient tiré plusieurs missiles depuis la direction des hauteurs occupées du Golan sur certaines cibles au sud de Damas, vers 80 Torlekal, vendredi, mais que les défenses aériennes syriennes avaient abattu la plupart d'entre eux. La Syrie avait exhorté le mois dernier les Nations Unies à émettre une condamnation claire des frappes aériennes incessantes du régime sioniste contre ce pays. Le président tunisien Kais Saied a reçu vendredi 10 juin le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, qui lui a remis un message écrit du président algérien Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la présidence de la République tunisienne. L'entretien a porté sur un certain nombre de questions liées à la coopération bilatérale, notamment le niveau de circulation des personnes entre les deux pays, outre des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, au premier rang desquels le dossier libyen. Le ministre algérien des Affaires étrangères est arrivé ce vendredi en Tunisie pour une visite qui coïncide avec l'arrivée de son homologue Najla Al-Manouche, ministre des Affaires étrangères du gouvernement libyen d'unité nationale. Les ministres tunisiens Ousmane Djerandi, algérien Ramtane Lamamra et libyenne Najla Al-Manrouche avaient une réunion tripartite le vendredi 10 juin, à l'issue de laquelle ils ont publié une déclaration conjointe de 19 points sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Dans la déclaration conjointe, les chefs de la diplomatie des trois pays ont souligné l'importance de la stabilité en Libye pour assurer la sécurité de la région en général et la nécessité d'achever le processus politique dans le cadre de la réconciliation et de l'unité à partir d'un dialogue intra-libyen et de mobiliser les efforts nationaux pour parvenir à la réconciliation nationale et unifier les rangs selon une approche basée sur le principe de leadership libyen et dans le cadre d'un partenariat efficace et rentable avec la communauté internationale. Les ministres se sont félicités de la reprise imminente au cœur des travaux de la Commission constitutionnelle mixte libyenne, encourageant les membres représentant la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État à saisir cette opportunité pour parvenir à un consensus nécessaire pour achever l'élaboration de la base constitutionnelle qui permettrait au peuple libyen d'exercer son droit souverain de choisir ses dirigeants dans les élections. Ils ont aussi souligné la nécessité de veiller à mettre en place une approche commune de coopération pour renforcer l'intégration stratégique, la solidarité et le développement intégré de la région. La déclaration conjointe porte également sur certaines autres questions régionales et internationales d'intérêt commun pour les trois pays, notamment la lutte contre le terrorisme dans la région, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la cybercriminalité, ainsi que la question des flux migratoires, la sécurité sanitaire, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Des navires de guerre russes effectuent des exercices en mer Baltique, annoncé vendredi 10 juin le ministère russe de la Défense, alors que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, organise les siens dans la même région. Une soixantaine de navires de guerre de surface, de bateaux et de navires de ravitaillement, environ 45 avions et hélicoptères, ainsi qu'environ 10 000 soldats participent à ces exercices à grande échelle, a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les marins s'entraîneront à fuir les navires d'un ennemi fictif et prendront des mesures de défense anti-aérienne, anti-navire et anti-sous-marine. Des forces terrestres ont été déployées dans l'enclave russe de Kaliningrad et utiliseront des munitions réelles pour attaquer des cibles ennemies fictives. Ces exercices se poursuivront jusqu'au 19 juin. La Russie montre ses muscles alors que 14 alliés de l'OTAN, ainsi que deux pays partenaires, la Finlande et la Suède, participent actuellement aux exercices Baltic Cooperation du 5 au 17 juin, auxquels prennent part plus de 45 navires, plus de 75 avions et 7500 personnels. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Pétrolier iranien saisi, la Grèce contre les États-Unis. La détermination des forces armées iraniennes à défendre les intérêts du pays en saisissant les pétroliers grecs dans le golfe Persique a encore une fois montré que les pays dont la flotte de commerce maritime doivent y passer n'ont pas à s'aventurer sur ordre de Washington dans des actes de piraterie contre les navires iraniens. Quant aux Américains, ayant poussé la Grèce à détourner le pétrolier transportant du brut iranien, ils devront commencer à se rendre compte que le monde n'est plus unipolaire et que leurs sanctions unilatérales et illégales contre les pays souverains n'auront plus les effets escomptés. La justice grecque fait marche arrière sur la saisie d'une cargaison pétrolière iranienne. Des responsables grecs et iraniens ayant confirmé jeudi qu'une cour d'appel de la ville portuaire d'Al-Qida avait annulé la décision d'un tribunal inférieur d'autoriser le retrait de la cargaison du pétrolier Lana que les autorités grecques ont temporairement saisie à la mi-avril. Un tribunal grec a annulé mercredi 8 juin la décision de justice antérieure autorisant la saisie par les États-Unis d'une partie de la cargaison de pétrole sur un pétrolier battant pavillon iranien au large des côtes grecques, ont déclaré trois sources proches du dossier selon le site web Shipping Herald. L'Iran avait vivement protesté contre cette action et avait ordonné le mois dernier la prise de contrôle armé de deux pétroliers battant pavillon grec dans le golfe Persique. L'Iran a également fait appel de la décision initiale du tribunal. L'ambassade d'Iran à Athènes a également annoncé. Après des suivis intensifs, la cour d'appel grecque a annulé la décision du tribunal initial de saisir le pétrole appartenant à l'Iran et la totalité de la cargaison de pétrole sera restituée. Le 19 avril, la marine grecque a saisi le pétrolier russe Pégas, opérant sous pavillon iranien au large de l'île de Bé, en vertu des sanctions européennes liées à la guerre en Ukraine. Le gouvernement grec a annoncé qu'il livrerait 115 000 tonnes de pétrole iranien sur le pétrolier Lana aux États-Unis, mais Téhéran a qualifié cette décision d'Athènes d'acte de piraterie. Les gardes-côtes grecs ont déclaré que le pétrolier avait été saisi pour avoir enfreint les sanctions de l'Union européenne imposées à la Russie à la suite de la guerre en Ukraine. En revanche, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré avoir déposé une plainte contre la Grèce auprès de l'Organisation maritime internationale, de même qu'il a convoqué mercredi 25 mai le chargé d'affaires grec en l'absence de son ambassadeur pour protester vigoureusement contre cette décision. L'Organisation des ports iraniennes a également publié un communiqué exhortant le gouvernement grec à respecter ses obligations internationales à cet égard. L'ambassadeur iranien en Grèce, Ahmad Naderi, dans la poursuite des activités diplomatiques et juridiques intensives au cours des dernières semaines visant à empêcher la piraterie américaine au large des côtes grecques, s'est rendu au port de Karistos et a rencontré le capitaine du navire pour passer en revue les dernières évolutions. La totalité de la cargaison de pétrole sera restituée, s'est-il félicité dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux après que le tribunal a rendu sa décision. La question reste l'objet d'intenses consultations entre les deux pays pour assurer la pleine application de la décision, a déclaré l'ambassade iranienne à Athènes.